12. Tombé amoureux. Affirme-t-on qu'on vient aux adolescents ou jeunes? Pour le mur, la femme mariée et mère de famille, le politicien austère, l'évêque, il est inconvenant de tomber amoureux. Il ne l'est pas pour les vedettes du spectacle, les artistes, car ils gardent au fond de leur cœur quelque chose de la légèreté et de l'irresponsabilité de l'adolescence. Se passionner pour la politique, s'enthousiasmer pour une fois, se jeter à corps perdu dans une aventure sont, comme le fait de tomber amoureux, des caractéristiques de la jeunesse. De même, de changer brusquement d'humeur, passer rapidement de l'enthousiasme au désespoir, puis à un nouvel enthousiasme pour une nouvelle chose. Crise mystique et crise politique, dénonciation de l'hypocrisie du monde, affirmation d'une justice absolue, espoir en un monde absolument bon. Et en même temps, déception profonde, amertume, désespoir. On retrouve concentré dans l'adolescence presque tous les caractères de l'état naissant. L'adolescence est la période de la vie au cours de laquelle l'état naissant se manifeste le plus fréquemment. Et l'on comprend pourquoi. L'adolescence est la période qui marque le passage de l'enfance et de la famille, de l'enfance au monde adulte et à toute sa complexité. Si l'état naissance sépare ce qui est uni et unit ce qui est séparé, aucun âge mieux que l'adolescence ne se prête à l'accomplissement de cette opération. On se sépare de sa propre famille, de son monde, des valeurs, des émotions et des croyances enfantines pour aimer et s'unir à d'autres personnes, mais aussi à des partis, à des groupes, à la politique, à la science. L'adolescence représente donc l'âge où continuellement on meurt et on renaît à quelque chose d'autre, où continuellement on expérimente les frontières du possible. L'adolescence est l'âge des coups de foudre, l'âge où se déroulent sans cesse des unions et des séparations dans une succession de révélations et de déceptions. Lorsqu'on affirme que tomber amoureux sied à l'adolescence et à la jeunesse, mais plus que tout, mais plus du tout aux autres âges de la vie, on ne se borne pas à constater un fait. On ajoute aussi que c'est déplacé, que ce n'est pas convenable, que cet accident ne devrait pas se produire. Si au contraire il se produit, si l'homme mûr tombe amoureux, si la femme mariée et mère de famille perd la tête, on dit alors qu'ils se comportent comme des gosses. Ils font quelque chose qui ne convient pas à leur âge, à leur statut, à leur devoir. Ce qui est permis dans l'adolescence, c'est-à-dire rompre avec sa famille, est maintenant interdit. Se comporter comme des gosses sans l'être ne signifie qu'une chose et seulement une seule. On rompt avec une institution, alors qu'il ne le faudrait pas. S'il s'agit d'un jeune, c'est admis, reconnu, cela doit être fait. Mais à un autre âge, non. L'enfant ne peut ni ne doit rester un enfant collé à sa mère, à son père, à ses jouets. L'adulte, au contraire, est arrivé, entre guillemets. Il a atteint un statut, une situation, entre guillemets, une place, entre guillemets, où il doit rester. Mais l'état naissant rompt avec l'institution consolidée pour créer une autre solidarité alternative. Il déplace, entraîne ailleurs, fait mourir et renaître, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. L'institution a horreur de l'état naissant. C'est la seule chose qu'elle redoute, car c'est la seule chose qui puisse l'ébranler jusque dans ses fondements, par sa seule présence. Selon l'optique de l'institution, l'état naissant est par définition l'inattendu. Puisque sa logique est différente de celle de la vie quotidienne, il représente l'incompréhensible, puisqu'il attaque les institutions au nom de leur valeur même et les accuse d'hypocrisie. Il incarne le fanatisme, puisqu'il reconstruit le passé et déclare rompu les liens et les pactes. Il est monstrueux. Face à un état naissant, même le plus insignifiant, l'institution est ébranlée dans ses certitudes. En reproduisant l'événement qui a donné naissance à l'institution elle-même, en mettant à nu les forces qui l'alimentent, L'état naissant crée une situation pleine de risques mortels. Tous les mécanismes sociaux, toute la sagesse des traditions n'ont alors qu'un seul but, chercher à étouffer l'état naissant, à le rendre impossible. Si cette destruction ne réussit pas, alors seulement la société essaiera d'enfermer l'état naissant dans des formes connues et reconnues. Les fiançailles, la séparation, le divorce, le modèle de l'amant, la vengeance, le mariage sont tous les aboutissants institutionnels d'un type particulier d'état naissant, celui de tomber amoureux. Mais tout cela n'arrive qu'ensuite, au début. Ces voies n'existent pas. Et tout cela n'arrive qu'ensuite, au début, ces voies n'existent pas. L'état amoureux n'est même pas reconnu comme tel. Face à l'événement qui n'aurait pas dû se produire, la société réagit toujours en essayant de nier son existence, de faire comme s'il n'avait jamais existé. Et tout d'abord, on le fait taire, on le classe dans les catégories de la vie quotidienne, catégories qui ne lui conviennent nullement. Ainsi, on oblige les amoureux à se définir comme quelque chose qui n'existe pas, comme quelque chose de différent de ce qu'ils sont. S'ils ne peuvent se définir dans les termes de l'institution, l'institution déclare leur expérience folle, dépourvue de sens, absurde. Tout d'abord, l'institution se moque de l'état naissant. L'homme adulte, amoureux d'une enfant, est grotesque, ridicule. Grotesques sont surtout ses pleurs, car les pleurs sont l'apanage des petits-enfants, des impuissants, et non des personnes qui ont un statut défini, une place dans la société. Autour de la personne amoureuse s'édifie toute une barrière de moquerie, de dérision. Cet homme-là fait quelque chose qui n'est pas raisonnable, il a perdu son sérieux. Ce qui pour lui représente une vicissitude dramatique, essentielle, est au contraire considéré par ses amis les plus chers comme une frivolité, une stupidité, un acte infantile. Ne fais pas l'enfant, lui disent ses amis. Votre attitude est puérile. C'est une régression, décrète le psychologue. Ou bien encore, une autre interprétation diamétralement opposée est avancée. C'est de la sexualité pure, de la sexualité réprimée. C'est un défoulement sexuel. On réduit l'état amoureux à la sexualité, parce que la sexualité n'a pas un objet unique, exclusif. Elle n'est donc pas très redoutable, très redoutable. Lorsqu'il devient évident que la relation est intense, la culture décrète que l'amoureux voit dans l'autre un absolu de perfection, sans défaut, sans incertitude, et lui attribue ainsi les propriétés du délire. En réalité, l'amour à l'état naissant est un processus, une découverte et une perte. L'être aimé est à la fois constant et précaire, unique et différent, empirique et idéal. En même temps, la culture déclare avec certitude que l'amour ne sera pas partagé. Pauvre rêveuse, de même qu'il a abandonné l'autre, il t'abandonnera aussi. Tels sont les commentaires des amis, des mères et des pères. Si l'amour est partagé, on avance alors une autre déformation. Ils sont liés, fascinés, ils vivent dans un univers isolé. Eux seuls enfermés dans leur égoïsme. Alors que l'amour est une ouverture joyeuse au monde qui apparaît beau et heureux, alors qu'il est une ouverture aux autres, ressentie comme des amis. Après les avoir décrits comme unis de façon contradictoire, notre culture les traite de pseudo-amoureux, c'est-à-dire de non-amoureux. Entre parenthèses, c'est un caprice, un engouement, un romantisme qui leur monte à la tête, etc. La culture quotidienne cherche toujours à imposer ses dichotomies. Ou tu aimes pour toujours, ou tu n'aimes jamais. Ou c'est un absolu, ou c'est quelqu'un pareil aux autres. Ou ils sont toujours unis, ou ils sont toujours séparés, etc. En définissant et en interrogeant de cette manière, notre culture pousse les amoureux à se définir dans la contradiction, dans la folie. La chose devient dramatique au plan éthique. Tomber amoureux est un acte de libération. Et la liberté n'est pas seulement vécue comme le fait de se libérer de ses liens, mais comme le droit de ne pas dépendre des conséquences nées de décisions passées, qu'elles soient les nôtres ou celles d'autrui. En réalité, dans l'état naissant, le passé n'est pas totalement nié. Il est nié pour être dépassé dans une nouvelle synthèse. Bien des choses du passé acquièrent même une nouvelle valeur. Sur ce point, la culture institutionnelle affirme catégoriquement. Un engagement est un engagement. Un pacte est un pacte. On ne peut enfreindre un pacte au gré de son caprice. Tomber amoureux n'est pas le résultat d'un caprice, mais la découverte que les pactes conclus dans le passé comportaient deux éléments. l'un que l'on pouvait imposer par un acte.